Salut tout le monde, bienvenue dans Snack. Aujourd'hui, on accueille Sébastien Doutreloup. Il est climatologue à l'ULIEJ. On va parler avec lui de climat, vous vous en doutez. Avant de se lancer, abonnez-vous à notre chaîne. N'hésitez pas à commenter avec ce que vous avez pensé de cet épisode et également les personnes que vous souhaiteriez voir dans notre émission. Ça nous fait plaisir d'avoir vos retours. On commence direct avec Sébastien. Hop là, salut Sébastien.
Salut.
Climatologue à l'ULIEJ, alors depuis combien de temps?
Eh bien, depuis 2009, donc il faut compter.
Il faut compter, d'ailleurs. Climatologue à l'ULIEJ, ça entraîne énormément de recherches que tu dois lire et autres, donc tu es bien informé sur la question. On te voit souvent dans les médias belges, d'ailleurs, assez régulièrement, et c'est pour ça qu'on va parler de climat avec toi dans un contexte mondial assez perturbé, on peut le dire.
Ah oui, là pour le moment, cette année-ci surtout, d'ailleurs, oui.
Oui, avec l'élection de Trump notamment, on a la COP29 qui est en cours au moment où on enregistre.
À Bakou, et il faut penser aussi aux inondations catastrophiques qui ont eu lieu en Espagne, aux inondations dans le sud de la France, aux inondations dans l'Europe centrale aussi, toute une série d'incendies aussi un peu partout dans le monde. Donc cette année-ci, franchement, elle est pas mal quoi, au niveau climatique.
Alors, c'est un sujet très vaste et c'est pour ça que nous souhaitions avoir un expert sur ce plateau pour lui donner le temps justement d'exposer les différents changements auxquels on va devoir faire face les prochaines années, mais également les causes et les conséquences donc de ce réchauffement climatique qui engendre des changements climatiques. On va en parler. Mais d'abord, avec la Belgique, où est-ce qu'on se situe au niveau de ce changement climatique? Est-ce qu'on est des bons élèves?
Alors, ça dépend à quel niveau on va étudier cette question-là. Si on regarde vraiment sur l'ensemble de l'histoire industrielle de la Belgique, on a été pratiquement plus de 100 ans, 110, 115 ans, dans le top 10 des pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Et à l'heure actuelle, même si nos émissions au temps T, là pour le moment, on est à 0,2% des émissions totales de gaz à effet de serre, la Belgique, si on prend vraiment ces quantités de CO2 émises depuis le début de l'ère industrielle jusqu'à aujourd'hui, on reste dans le top 20 des pays les plus émetteurs historiquement au niveau des gaz à effet de serre. Et donc, on est quand même un gros contributeur historique, en tout cas, de ces gaz à effet de serre.
Le gouvernement wallon vient d'affirmer qu'il y aurait 13 millions d'euros pour la lutte contre ce changement climatique. Est-ce que c'est assez?
Alors, c'est pas assez du tout. Et plus on attend d'ailleurs, plus on va avoir une quantité d'argent à investir pour lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi pour régler tous les problèmes que le réchauffement climatique va produire en Belgique. Il suffit de penser simplement aux inondations de 2021, ça a coûté plus de 2 milliards d'euros à la Wallonie et la Belgique et aux assureurs pour régler les problèmes et pour revenir à une situation plus ou moins initiale. Et donc, injecter quelques millions, même si ça peut paraître énorme à l'échelle d'une personne, injecter plusieurs millions pour la lutte contre le réchauffement climatique, c'est vraiment peanuts, même à l'échelle de la Wallonie.
C'est assez dérisoire, les sommes qui sont investies pour lutter contre ce changement climatique, ces changements climatiques.
C'est bien trop peu, en tout cas, que ce qu'il faudrait vraiment apporter pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est clair.
Ça coûte plus cher de régler les conséquences de ce changement climatique plutôt que de lutter contre.
Mais en tout cas, régler les conséquences, on l'a vu avec les inondations de juillet 21, ça coûte immensément cher. Je veux dire, quand la Wallonie doit sortir plus de 2 milliards d'euros, ça coûte horriblement cher. Alors qu'on savait qu'il allait avoir ce genre d'inondation. Et on le sait depuis, à la limite, depuis le premier rapport du GIEC en 1990. Alors que si on avait investi à partir de 1990, justement pour avoir des rivières plus résilientes par rapport à des gros coups d'eau comme ça, on n'aurait probablement pas dû investir ces 2 milliards d'euros en 2021. Vous voyez, donc il faut vraiment peser le pour et le contre. Et plus on attend aussi pour investir dans la réduction et dans l'adaptation au réchauffement climatique, plus on attend, plus il va falloir débourser énormément d'argent. Et donc c'est mieux de le faire le plus rapidement possible pour ne pas avoir à le faire plus tard en réparation, mais de toute façon quand même en adaptation, parce qu'il va quand même bien falloir vivre dans un climat plus chaud.
Le GIEC dit dans ses rapports d'ailleurs que ces inondations sont directement liées au réchauffement climatique. Est-ce qu'on peut l'affirmer, ça ? Ce sont directement des conséquences de ce réchauffement ?
Alors déjà, dans son premier rapport de 1990, le GIEC disait qu'on allait avoir justement une augmentation de ces précipitations intenses pouvant donner des inondations. À contre-coup, après ces événements-là, en juillet 21, ou même ici après les événements de Valence en Espagne, on fait des contre-analyses, si on veut. Et on essaye de déterminer des analyses d'attribution, et on essaye de déterminer la part du réchauffement climatique dans ces événements-là. Eh bien, on voit qu'en juillet 2021, ici en Belgique, le réchauffement climatique a joué de l'ordre de 20 à 30% des précipitations excédentaires que l'on a retrouvées en Belgique. C'est-à-dire que l'événement est d'une part à des explications météorologiques, c'est-à-dire que les conditions en tant que telles ont mené à ce genre d'inondation. Il y en a peut-être pas toujours eu, mais il y a toujours eu des conditions météorologiques propices à des inondations intenses. Sauf que le réchauffement climatique provoque une sur-intensité de ces précipitations. Donc, en gros, si je prends un chiffre simple, je c'est pas les vrais chiffres, mais c'est juste pour donner une valeur comme ça. Admettons qu'il soit tombé en moyenne sur la province de Liège 100 mm en conditions normales, c'est-à-dire sans réchauffement climatique. Eh bien, avec un réchauffement climatique, il ne tombera pas 100 mm, mais plutôt 120 ou 130 mm. Donc, ces 20 à 30 mm excédentaires sont liés au réchauffement climatique. Maintenant, il y a une question un peu plus difficile à répondre aussi, c'est de savoir si le réchauffement climatique va augmenter la fréquence. On sait, et on est pratiquement certain, que ça augmente l'intensité des précipitations. Mais est-ce que ça augmente aussi la fréquence de ces précipitations extrêmes ?
Ça, on ne le sait pas.
Ça, on est en train de l'analyser, mais il semblerait des premiers rapports et des premières analyses qui sont faites qu'effectivement, le réchauffement climatique augmente aussi la fréquence de ces précipitations extrêmes. Donc, non seulement il augmente l'intensité, mais en plus la fréquence.
Ces inondations dues au débordement de la Vesdre, tu en parlais, ont eu lieu en juillet. Pourquoi en juillet ? Est-ce que c'est à cause de la perméabilité de nos sols ou est-ce que c'est à cause d'autres choses ?
Alors pourquoi en juillet et je vais dire en été en règle générale ? Parce qu'en été, l'air est plus chaud et donc il sait accueillir plus d'humidité. Pour 1 degré d'augmentation de température, l'air sait accueillir 7% d'humidité en plus. Et donc potentiellement des précipitations en plus aussi.
Donc tu confirmes, c'est un problème auquel on va devoir de plus en plus faire face en Belgique les années à venir, si ça ne s'améliore pas, si on ne limite pas le nombre de degrés.
C'est clair et net. Et c'est clair et net. Et en plus, il faut aussi s'adapter à avoir ce genre d'événement. Donc on sait que ce genre d'événement va revenir. Mais faisons tout en sorte pour qu'ils produisent le moins de problèmes possibles, le moins de vie humaine surtout, mais aussi le moins de dégâts matériels, ce qui coûtera moins cher à réparer aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut repenser toute notre rivière, mais tout aussi le bassin versant, parce que tout ce qui tombe sur le bassin versant va finir par couler dans la rivière. Et donc, il faut vraiment réfléchir à toutes ces implications-là sur l'ensemble du bassin versant de la Vesdre. Mais il faut faire exactement la même chose sur l'Ourthe, sur le bassin versant de la Meuse aussi, qu'il faudra réfléchir à un moment donné. Et donc, il faut réfléchir vraiment à vraiment une très large échelle et vraiment intégrer toutes les composantes du bassin versant, que ce soit les habitations, les industries, les commerces, enfin tout, les forêts, l'agriculture, les zones naturelles. Hein. Le bassin de la Vesdre draine une partie des Hautes-Fagnes. Il faut repenser aussi ce milieu naturel des Hautes-Fagnes pour justement atténuer ces ondes de crue.
On le remarque d'ailleurs, de plus en plus, les communes font plus de bassins d'orage, pensent plus à l'inondation de certains terrains qui ne deviennent donc plus du tout bâtissables. Depuis ces inondations alors, elles ont été nécessaires ces inondations pour justement que ça vienne sur le débat public et que tout le monde se rende compte que ça allait être réellement un gros problème.
Alors, elles ont été nécessaires, en tout cas ça a été une espèce d'électrochoc pour pouvoir réagir. Mais selon mes informations, ça ne réagit que sur la Vesdre. Et moi, je sais qu'il y a des gestionnaires sur d'autres rivières qui attendent aussi des fonds pour pouvoir faire des aménagements tout pareils, pour pouvoir faire un, ce qu'on appelle le master plan de la rivière. Le master plan de la Vesdre, il est fait, il a été réalisé, et on a vraiment un diagnostic parfait et les solutions qu'il faut mettre en œuvre. Mais il faut faire exactement la même chose sur l'Ourcq, il faut faire exactement la même chose sur l'Amblève, sur la Semois, sur toutes les rivières qui sont concernées par ce type d'inondation, et en ce compris d'ailleurs aussi en moyenne et en basse Belgique.
Alors, il ne faut pas baisser les bras, mais on le disait tout à l'heure, les États n'investissent pas assez pour que ce changement climatique, ces changements climatiques n'aient pas lieu et que cette barre de 3 degrés ne soit pas atteinte en 2100.
Oui, alors il y a une barre beaucoup plus importante avant, c'est-à-dire que les accords de Paris, ils souhaiteraient, en tout cas l'accord est fait dans ce sens-là, de ne pas aller au-delà de la barre de 1,5 degré. Ça, c'est vraiment la limite des accords de Paris, et en tout cas, rester sous la barre des 2 degrés. Sinon, à partir de là, il y a toute une série de conséquences en chaîne, de points de bascule qui vont arriver, et qu'on ne parviendra même pas à revenir en arrière.
On en reparlera après pour voir si on est bien parti ou mal parti. On a une petite idée de la réponse, malheureusement. Mais une des conséquences de ce réchauffement climatique de 1,5 degré dont on parle, c'est l'augmentation du niveau de la mer, qui aura un impact direct, donc, si on revient chez nous, en Flandre. Est-ce que on sait déjà comment ça va se passer? À quel point est-ce que ça va rogner sur les terres de Flandre?
Ah oui, toutes les simulations sont disponibles pour les différents niveaux de réchauffement. Et c'est assez simple de le calculer, parce que pour un réchauffement, on sait comment les calottes glaciaires vont fondre, on sait comment les océans et les mers vont se réchauffer, et donc leur dilatation thermique va prendre un espace plus important, enfin le volume des mers va prendre un espace plus important. Et tout ça, c'est assez simple, entre guillemets, à calculer. Donc toutes les simulations, en tout cas pour la Flandre, sont disponibles, oui.
Est-ce que tu considères, donc ces simulations, je vous invite à aller les regarder simplement, mais on voit bien que ça rogne quand même beaucoup de notre territoire. Est-ce que notre pays investit pour que ça n'augmente pas et pour trouver des solutions finalement à ces personnes qui se retrouveront sans logement?
Pour le moment, effectivement, le pays investit assez massivement, tout comme les Pays-Bas d'ailleurs, parce qu'eux ont le problème fois quelques facteurs, en construisant des digues, en relevant les digues un peu partout. Et donc, il n'y a que comme ça qu'on parviendra à limiter l'avancée de la mer sur notre territoire. Mais à un moment donné, on ne parviendra plus. C'est-à-dire que quand le niveau de la mer sera monté d'un point tel qu'il y ait, par exemple, une, entre guillemets, bête tempête qui va arriver, la bête tempête, elle va faire en sorte que l'eau va se propager dans les terres parce que ça va passer au-dessus de la digue.
Un autre problème, on peut l'opposer à tout ça, à tout ce dont on vient de parler, c'est la chaleur dans nos villes, etc., qui va devenir un réel problème dans les prochaines années avec cette augmentation dont on parlait, avec ce réchauffement climatique. Cette chaleur, il va falloir évidemment la penser aussi au sein de nos villes, etc., s'adapter face à elle. Qu'est-ce qui est pensé pour l'instant pour s'adapter?
Il n'y a pas que dans les villes, hein, d'ailleurs, la chaleur. Et peut-être, avant, en préambule, peut-être dire aussi que c'est assez paradoxal d'avoir à la fois plus de précipitations, mais aussi plus de chaleur. Mais il y a plein d'effets paradoxaux comme ça du réchauffement climatique, mais tout ça est tout à fait logique. C'est-à-dire qu'on a une augmentation de tous les extrêmes à cause du réchauffement climatique. Pourquoi? Simplement parce qu'on injecte beaucoup plus de chaleur et donc d'énergie dans l'atmosphère. Et c'est pour ça que les extrêmes, qu'ils soient pluvieux ou qu'ils soient de chaleur, par exemple, ou même de sécheresse, ce qui est l'antipode des précipitations extrêmes, c'est pour ça que tout ça est en train d'augmenter, parce qu'il y a plus d'énergie dans le système. Alors revenons sur cet effet de chaleur dans les villes. Les villes, même sans réchauffement climatique, connaissent ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la ville, il fait de toute façon plus chaud qu'à l'extérieur. Donc une ville comme par exemple Liège, en temps normal, par exemple, a 4 degrés en plus que l'extérieur moins urbanisé. C'est lié par exemple à la densité du bâti, au fait qu'on a beaucoup d'activités à l'intérieur, que ce soit des chauffages ou des climatisations ou la circulation thermique automobile, etc. Il y a plein de facteurs comme ça qui font qu'à l'intérieur d'une ville, il fait plus chaud. 4 degrés en moyenne. Quand on a une canicule, par exemple, et que le soleil est complètement dégagé, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de vent, il n'y a rien pour aérer la ville, le soleil va réchauffer terriblement la ville, et donc cette ville va avoir beaucoup plus chaud que ces 4 degrés en moyenne. On va monter de l'ordre de 8 à 10 degrés plus chaud que la campagne environnante. Alors vous rajoutez à ça, en canicule, bah, il fait déjà minimum 30 degrés, donc on a déjà 35, 38, 40 degrés en ville, et vous rajoutez à ça aussi le réchauffement climatique qui rajoute 1, 2, voire 3 ou 4 degrés à la fin du siècle, on dépasse les 40 degrés. Et donc c'est évidemment hyper contraignant pour les humains et est néfaste pour notre santé humaine, quoi.
Je reviens sur ce que tu avais dit avec les changements qui sont donc entraînés par cette énergie qu'il y a au sein de notre atmosphère. Donc on peut remarquer que on a des hivers malgré tout rudes à certains moments. On peut remarquer que parfois il fait froid en effet et il continue à faire froid. Et certains climato-sceptiques vont prendre cette perche pour dire réchauffement climatique. Non, on est en train de nous dire des bêtises. Qu'est-ce que tu aurais à leur répondre ?
Bah, qu'il ne faut pas confondre la météo et le climat déjà. Ça c'est le point 1. La météo c'est vraiment le temps au jour le jour. Et malgré le réchauffement climatique, c'est pas un scoop, hein, mais malgré le réchauffement climatique, il fera toujours plus froid en hiver et toujours plus chaud en été comparativement à l'hiver. Les saisons, on va les garder, par exemple. Donc cet événement, un événement météo, il faut vraiment le distinguer du réchauffement climatique parce que le climat, c'est une espèce de statistique de tous les événements météo. Donc on ouvre la fenêtre le matin, on regarde le temps qu'il fait, et bien on fait ça tous les jours, on compile sur minimum 30 ans, le climat s'étudie sur une période de 30 ans, on calcule la statistique, et ça c'est le climat. Et le réchauffement climatique, comme son nom l'indique, il s'inscrit dans la statistique. Et donc en Belgique, a fortiori en plus, on va garder une variabilité même entre les années qui est relativement importante. Donc on va toujours avoir des années chaudes, on va toujours avoir des années plus froides. On va garder des saisons aussi, avec des hivers plus froids que les étés. Mais on va garder cette statistique, et quand on regarde ça sur le long terme, bon, on va avoir une dent de scie comme ça, mais la dent de scie, elle va pas être plate. Il y a le réchauffement climatique qui va venir s'ajouter dessus, et donc la dent de scie, elle va progressivement monter. Et c'est ça qui marque le réchauffement climatique, pour la moyenne en tout cas. Et puis alors, il y a tous les effets connexes, comme les événements extrêmes de sécheresse, de fortes précipitations, etc., qui viennent se rajouter en plus, évidemment.
La sécheresse qu'on peut observer aussi dans notre pays, malgré les pluies diluviennes qu'on a connues, en parallèle des sécheresses également. Ouais. On va en connaître également beaucoup plus. Ça va avoir quel impact, ça ?
Alors, on en connaît déjà beaucoup plus que par le passé. C'est pareil qu'avec les canicules. On a une augmentation du nombre de jours, de jours secs depuis quelques années maintenant déjà. Sauf évidemment cette année-ci. Mais cette année-ci rentre dans ce que je disais juste avant, dans la variabilité interannuelle qu'on a en Belgique. D'une année à l'autre, bah, il va y avoir des années chaudes, des années froides, mais aussi des années plus pluvieuses et des années plus sèches. Mais on voit que ces années plus sèches ou ces périodes plus sèches, qu'on va appeler du coup des sécheresses, vont augmenter, augmentent déjà un petit peu maintenant, mais vont augmenter à l'avenir. En ayant des conséquences, bah, les premières conséquences, c'est évidemment sur l'agriculture. Une fois que l'agriculture manque d'eau, bah, on va avoir des blés plus petits, par exemple. Et la deuxième conséquence, c'est aussi sur nos forêts. Nos forêts manquent pour le moment cruellement d'eau. Et ici, ça a toute une série de conséquences, c'est-à-dire qu'on a des peuplements d'arbres qui sont en train de dépérir à cause de ces sécheresses.
Et on en arrive aussi à une conséquence de ce réchauffement climatique, les incendies. Les incendies donc que de nombreux États connaissent actuellement. On a eu aussi des incendies en Haute-Fagne. On s'en souvient, pour ceux qui s'en souviennent en tout cas. Nous aussi, on sera sujet à beaucoup plus d'incendies dans le futur. Et actuellement, on l'observe, les forêts dépérissent à cause notamment de ça.
Alors, les forêts dépérissent à cause de la sécheresse, mais pas forcément encore des incendies. Les incendies en Belgique sont assez difficiles à évaluer au prisme du réchauffement climatique. Mais par contre, c'est clair que sur la région qui nous est le plus proche, c'est plutôt le bassin méditerranéen. Et on voit que chaque année, y compris cette année-ci, on a des incendies un peu partout sur le bassin méditerranéen. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup trop sec et il est beaucoup trop chaud. Si on met du sec et du chaud sur de la végétation, qu'est-ce qu'il fait? Ben, la moindre petite étincelle va faire que cette végétation va prendre feu. On l'a vu au Portugal, on l'a vu en Espagne, on l'a vu en Grèce principalement cette année-ci, et l'année dernière, c'était tout pareil, c'était les mêmes pays qui étaient touchés par ces incendies. En France aussi, évidemment, en Corse. Et donc, toute cette région du bassin méditerranéen est en train de s'assécher et de flamber à cause de ce réchauffement climatique. Et là, il est clairement identifiable.
Il y a d'autres impacts comme le scolyte, le développement de parasites et autres qui attaquent nos forêts et oui. notre biodiversité.
Et finalement. Le scolyte s'attaque aux arbres. Alors, d'une part, parce que c'est de la monoculture, et donc dès qu'il y a un arbre qui est touché, bah, tout le reste des arbres est touché aussi, parce qu'ils sont tous... Ils ont tous la même résilience, et une résilience notamment faible parce qu'ils sont en condition de sécheresse. Et donc, c'est aussi lié à ce réchauffement climatique. S'il n'y avait pas eu de sécheresse, le scolyte aurait moins eu facile d'attaquer toute une série d'arbres, par exemple.
Alors, ces conséquences, tu le rappelais souvent lors de mes questions, elles sont déjà là, mais elles vont augmenter encore. Est-ce que ça va être exponentiel?
Mais plus le réchauffement climatique augmente, plus effectivement ses conséquences vont être exponentielles. C'est clair et net. C'est pas du tout un processus linéaire. Mm-hmm. Plus il va faire chaud, alors je sais pas te donner un chiffre comme ça rapidement, mais effectivement, plus il va faire chaud, plus on va avoir des conséquences en chaîne. Et tout ça, c'est simplement lié au fait qu'on a beaucoup plus d'énergie dans cette atmosphère qui doit être libérée à un moment donné.
Toutes ces conséquences, elles sont liées ou en tout cas gravement renforcé par l'activité de l'homme. Tu nous le confirmes?
Mais en tout cas, toutes ces conséquences et ce réchauffement climatique est clairement attribué aux activités humaines. Il n'y a même plus de doute possible là-dessus. Le dernier rapport du GIEC a été clair là-dessus. La phrase, c'est « il est clair et indubitable que le réchauffement climatique est attribué aux activités humaines. » Point. On ne peut même plus douter, alors que les 5 rapports précédents, par contre, disaient « il reste un petit doute possible ». Effectivement, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit l'homme qui est responsable du réchauffement climatique. Depuis le dernier, c'est clair et indubitable.
Qu'est-ce qui a enlevé ce doute?
Ben, c'est la progression de la science. Au fur et à mesure qu'on mène la science, c'est quelque chose, c'est une vérité qui évolue. C'est pas la vérité, c'est une vérité qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Et au fur et à mesure des rapports du GIEC, ben, tout ça, c'est confirmé. Or, c'est pas qu'on est resté dans le doute jusqu'au 5e rapport. Le doute s'est progressivement effacé. Et au 5e rapport, il y avait presque plus de doute. Mais le 6e, il a complètement effacé tout le reste. Et ça, c'est juste l'évolution de la science qui le veut. Et en parallèle, d'une part, on a l'évolution de la science, c'est-à-dire des connaissances scientifiques qu'on a sur le climat, hein, qui est quand même, au niveau de l'histoire des sciences, c'est quand même une science relativement nouvelle. Mais en parallèle, on a aussi l'évolution des observations. Et dans les observations, on voit que on n'a jamais constaté une augmentation de température comme ça dans le passé. Et donc, c'est clair qu'il y a quelque chose qui a changé. Et ce qui a changé, c'est que l'homme a mis son grain de sel dans la machinerie.
Alors, on passe à un tout autre sujet. Dès lors, maintenant qu'on connaît les conséquences, comment est-ce qu'on fait pour limiter ces conséquences? Comment est-ce qu'on fait pour limiter ce réchauffement climatique? Comment est-ce qu'on fait, à notre échelle d'abord, pour essayer d'avoir un impact? Parce qu'on constate que même si on prend plus l'avion, bah, les avions continuent de voler. Même si on veut prendre plus le train, finalement, les États ne font rien pour que ce soit plus accessible. Comment est-ce qu'on fait pour plus utiliser le vélo avec des pistes cyclables qui sont quasi inexistantes en ville, ou du moins qui ne sont pas continues? Comment est-ce qu'on fait à notre échelle?
Si j'avais une baguette magique, je le dirais. Mais en tout cas, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'on peut agir à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'atténuer le réchauffement climatique. C'est-à-dire de pouvoir rester sous cette barre de 1,5 ou 2 degrés, vraiment au grand maximum, maximorum, quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut aussi s'adapter. S'adapter à quoi? À vivre dans un climat plus chaud. On en parlait tout à l'heure avec les rivières, c'est par exemple permettre des zones d'inondation volontaires, par exemple. Ça, c'est de pouvoir vivre dans un climat plus chaud. On sait qu'on aura plus d'inondations. Eh bien, on va faire des zones d'inondation temporaires pour justement atténuer l'impact qu'on a sur les inondations. Toutes ces solutions, notamment pour les inondations et pour tout le reste de ce que tu as cité juste avant dans ta question, toutes ces solutions, en réalité, ce qui est dingue, c'est qu'elles existent. Elles sont écrites où ? Elles sont écrites dans le troisième volume, donc le rapport du GIEC qui est composé de trois volumes. Il est écrit dans le troisième volume qui est consacré uniquement aux solutions. Et donc finalement, si toutes les solutions existent, pourquoi est-ce qu'on ne les met pas en œuvre ? Ben ça, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que c'est une pure décision politique.
Donc ça vient plus d'en haut, ce choix de lutter efficacement contre ce réchauffement climatique.
On peut plus le dire. On va nuancer ça. La science, en tout cas, elle a donné toutes les solutions qu'il faut apporter. C'est écrit, même le premier rapport du GIEC, il y avait une partie de solutions, toutes les solutions y étaient. D'ailleurs, j'y suis retourné récemment, et c'est très interpellant ce qui était marqué dans ces solutions, notamment au niveau des véhicules, dans ce premier rapport du GIEC, donc, qui est paru en 1990. Hein, il disait qu'il fallait diminuer le nombre de véhicules individuels, mais aussi leur poids. Qu'est-ce qu'on a fait depuis lors ? On a augmenté de manière fulgurante le nombre de voitures individuelles et le poids n'a fait qu'augmenter. Il suffit de penser simplement au SUV. Donc en réalité, pour pouvoir régler ce problème de réchauffement climatique, ce serait d'abord de lire tout ce qu'on avait écrit, même en 1990, et ce qu'on a écrit a fortiori dans le dernier rapport du GIEC.
Ouais, c'est ça. Et donc, on constate bien qu'ils n'en ont eu que faire. Il y a eu énormément de lobbying autour aussi de l'Europe.
Il est toujours là, d'ailleurs.
Oui. Ouais. Qui est toujours là, oui, qui est toujours bien présent.
Mais je pense, il y a effectivement le pouvoir politique qui a sa part de responsabilité dans l'inaction climatique. Mais je pense qu'il y a aussi des responsabilités de la population, parce que je pense que le politique, il n'est finalement que le miroir de la population. Or, c'est vrai qu'il y a une grande partie de la population qui est conscientisée. On l'évalue notamment de l'ordre de 20% de la population, par exemple, qui sont hyper conscientisés par rapport au réchauffement climatique. Mais 20%, il reste quand même 80% à côté.
Ouais.
Et ces 80%, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, on reste, et je m'inclus dedans parce que personne n'est parfait, mais on reste dans une espèce de confort comme ça que nous ont apporté plutôt les énergies fossiles, et on a du mal à changer nos habitudes. Mmh. C'est très difficile de changer une habitude bien ancrée et un confort qui est bien ancré. Et donc, en réalité, ce qu'il faudrait changer, c'est plutôt le discours qu'on a sur le réchauffement climatique et sur les solutions qu'il faut y apporter. On voit toujours des solutions de manière négative, mais on peut très bien avoir les solutions de manière clairement positive.
Donc, il faut se conscientiser, il faut essayer de faire à notre échelle notre possible pour essayer d'être plus sobre. Ouais. C'est une question de sobriété, d'ailleurs.
Ah oui, clairement.
Il y a énormément de greenwashing autour de tout ça. Donc, ça va être les voitures électriques, par exemple,
ouais.
Qui sont gigantesques. Voitures électriques SUV, ça n'a pas beaucoup de sens.
Ça n'a aucun sens. Et l'avenir de la mobilité, c'est peut-être, par exemple, d'avoir des voitures partagées, plus petites et partagées.
Donc c'est, voilà. Ouais. Et donc, c'est cette forme de sobriété, finalement, de moins consommer, de consommer plus intelligemment, qu'il faudrait prôner chez les gens pour essayer.
Je pense que c'est la première solution à appliquer. Avant de consommer différemment, je pense qu'il faut moins consommer, parce que tous nos problèmes viennent de là. Si on a autant émis de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est parce qu'on a surproduit plein de produits, plein de choses à vendre. Mmh. Et on continue. Et je pense qu'une des premières choses à arrêter, c'est Timothée Parik, hein, l'économiste français qui le dit, c'est les publicités. Les publicités, c'est très bête hein, comme solution à prendre. Il suffit que chaque commune prenne une décision. On interdit la publicité dans notre commune. Il n'y a plus de publicité nulle part et plus personne n'est incité à vouloir acheter quelque chose. Vous voyez, les solutions, elles peuvent être très simples. Mmh. Et du jour au lendemain... On peut prendre cette solution-là. Alors, je parle des communes, mais ça peut très bien être le pouvoir fédéral ou le régional. Ben, je veux dire, n'importe quel pouvoir peut prendre cette décision-là. Ou alors, mieux, on remplace ces publicités-là pour promouvoir, je ne sais pas moi, le petit boulanger local ou le maraîcher local, pour le mettre un peu plus en lumière que ce qui n'est pour le moment.
Et ça, ce sont des décisions politiques.
Et ça, c'est purement une décision politique.
Alors ça nous dépasse et ça nous amène vers le fait que est-ce que les politiques font assez pour lutter contre le réchauffement climatique ? Tu m'as affirmé que non.
Alors, c'est clair qu'il faudrait plus faire, mais je me demande aussi, est-ce que le pouvoir politique est bien informé sur tous les problèmes que nous amène le réchauffement climatique ? Parce que maintenant, à force de voir des années où on passe son temps, alors nous, mes collègues et moi, dans les médias notamment, mais on est plein à alerter le pouvoir politique, notamment les jeunes dans les marches pour le climat, etc., à alerter le pouvoir politique pour qu'ils prennent un peu notre avenir en main et qu'ils s'occupent réellement de ces questions-là. Et qu'est-ce qu'on voit au final? Mais rien. Alors, soit ils n'écoutent pas, soit ils ne se renseignent pas, il y a une désinformation, ou alors ils sont clairement malhonnêtes et ils ne veulent pas agir pour le réchauffement climatique.
Quand tu es bien informé sur le sujet, tu le vois comme une urgence.
Mais c'est clairement une urgence.
Voilà.
Et plus les années passent, plus on voit que les années se réchauffent vite. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas un réchauffement linéaire, c'est un réchauffement exponentiel.
Et dès lors, ça urge, mais on constate que dans leur tête, ça n'urge pas du tout. En tout cas, les paroles ne rencontrent pas les actes.
Mais c'est même pire, si on analyse la campagne électorale de juin dernier, fédérale et régionale, on se rend compte que le climat, on n'en a pas du tout parlé.
Pas du tout, c'est vrai.
Pas du tout. Mmh. Alors que c'est quelque chose, c'est une thématique qui devrait être même transpartisane. Tout le monde doit s'occuper, tous les partis, c'est même pas quelque chose de parti, c'est pas un parti particulier qui doit porter cette question-là. Ça doit être un sujet transpartisan, et même transministériel quelque part. Le climat devrait être analysé sous tous les prismes. Prisme budgétaire, l'aménagement du territoire, la mobilité, l'agriculture, tout devrait être analysé au prisme du réchauffement climatique.
Alors c'est intéressant parce qu'aucun parti n'en parlait vraiment et n'en faisait un cheval de bataille, alors que l'urgence est bel et bien là, d'autant plus avec le dernier rapport du GIEC, tu le disais. Et pourtant, donc, on n'en a pas parlé au sein de la politique. Ce qui explique ça généralement, c'est que l'opinion publique n'en a que faire, ça ne rapporte pas assez de voix. C'est généralement pour ça qu'un débat ne fait plus mouche au sein d'un débat politique, c'est parce qu'il ne rapporte pas assez de voix. Qu'est-ce qui explique ça? Les gens en ont marre. On le sent quand même. Dans toutes nos publications où on parle d'écologie, on constate donc des commentaires de climato-sceptiques qui vont dire « Oh, mais l'écologie, c'est bon, ça passe après, etc. » Qu'est-ce qui explique ça? C'est de plus en plus virulent, alors que l'urgence n'a jamais été aussi forte.
C'est une très bonne question, mais ça rejoint ce qu'on a dit avant, c'est que agir pour avoir une atténuation du climat ou s'adapter à un climat plus chaud, c'est toucher à nos habitudes. Et surtout, c'est toucher à notre système, qui est hyper bien ancré, système capitaliste en l'occurrence, qui est hyper bien ancré. Et évidemment, si on touche à ces structures-là, mais évidemment, il y a plein de choses qui vont devoir changer et on va devoir se remettre en question. Et c'est super compliqué pour quelqu'un de pouvoir se remettre en question à ce point-là. Et je pense que c'est de là que viennent toutes les réticences.
C'est cette envie de rester dans un certain confort encore quelques années, jusqu'à ce qu'on se rende compte finalement qu'il n'y a plus d'autre choix que de changer, et il sera trop tard quand on se rendra compte de ça.
Oui, mais le problème, c'est que le confort, c'est un peu comme l'orchestre du Titanic qui jouait jusqu'à la dernière minute. Et donc, on coule, mais on le fait en musique, quoi. Mm-hmm. Et donc, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Alors qu'ici, on a les clés, on a toutes les clés possibles, toutes les solutions possibles pour éviter de se noyer.
Mais t'en parlais, depuis 1990, le GIEC donne des clés pour freiner ce réchauffement climatique. Ça n'a jamais été fait. Pourquoi est-ce que ce serait fait par nos États, là maintenant, qu'il est quasi trop tard, tu vois?
Parce que on est clairement dans l'urgence et on l'a vu. Enfin, je veux dire, suffit de reprendre toutes les images des médias des dernières semaines. Quand on voit la catastrophe à Valence, je disais qu'on a dû dépenser 2 milliards ici en Belgique pour résoudre le problème de la Vesse, pour régler tous les dégâts. À Valence, ils ont déjà alloué 20 milliards d'euros pour régler les problèmes qui se situent uniquement sur une seule ville. Mais quand ces problèmes se répartissent beaucoup plus dans beaucoup plus d'endroits, ben on va avoir de plus en plus de milliards à sortir pour régler ces problèmes-là. Et donc simplement par le prisme budgétaire, je pense qu'une gestion saine de l'État, ça devrait déjà être de s'occuper du réchauffement climatique, parce qu'à terme, et ça il y a une étude du Bureau du Plan qui l'a montré, c'est qu'à terme, c'est-à-dire à partir de 2030-2035, chaque année, on va devoir dépenser 30 milliards pour la Belgique, pour régler ses problèmes climatiques. 30 milliards. Mmh. Donc, voilà, simplement pour une question budgétaire, il faut agir dès aujourd'hui pour régler ce problème climatique, parce que sinon, on n'aura même plus de budget pour assurer tous les services publics que l'État rend à la population.
Alors justement, on y revient. Ça coûte donc certainement moins cher de s'en occuper maintenant et d'activer donc une forme de nouvelle société qui est plus dirigée vers la consommation à tout prix, etc., un néo-capitalisme comme ça, mais une sobriété pour essayer de limiter ces coûts de l'État et essayer de limiter les coûts des dégâts liés à ce réchauffement climatique, alors.
Oui, mais tout, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout passe par la sobriété, c'est-à-dire la diminution de nos consommations, quelque part. Qu'elles soient consommation électrique, consommation d'énergie, de gaz, etc. Consommation en trajet, par exemple, aussi. Consommation en nourriture qui vient de d'on ne sait où. Donc, alors, c'est vraiment tout ça qu'il faut vraiment diminuer au maximum. Alors ça va avoir un effet co-bénéfice, c'est qu'on va dépenser moins aussi, à titre individuel. Mais si on applique ce genre de politique à l'échelle d'une région, d'un État, bah, l'État va aussi dépenser moins et pourra attribuer des sommes, des budgets, à justement vivre, à pouvoir vivre, à s'adapter, à mettre des actions en place pour s'adapter à un climat plus chaud.
Malgré tout, il reste des gens qui ne souhaitent pas adapter leur façon de fonctionner, leur rythme auquel ils prennent l'avion, leur rythme auquel ils prennent leur voiture. Ces personnes-là, qu'est-ce que les États devraient faire pour essayer d'adapter leur façon de consommer ?
Mais c'est pour ça qu'on disait aussi que tout doit passer par l'État pour avoir une règle commune. Je veux dire, si on prend un autre exemple, il y a plein de personnes qui aimeraient bien rouler à plus de 120 km/h sur l'autoroute. Mais non, il y a des règles pour vivre en société, et les règles, c'est de se limiter à 120 km/h sur l'autoroute. Ben, ça devra être la même chose, et le plus rapidement possible, avec toutes ces questions, j'ai même pas envie de dire climatiques, mais plutôt environnementales, parce qu'il y a beaucoup d'autres problèmes que le climat dans ce qu'on appelle l'environnement, et c'est l'État qui doit impulser ces nouvelles règles. Mais je pense aussi que dès qu'on impulse une nouvelle règle, il faut aussi l'imposer avec un peu de pédagogie, même avec beaucoup de pédagogie, c'est-à-dire expliquer pourquoi on instaure telle ou telle règle. Si on limite les trajets en avion, c'est pas pour le plaisir de limiter les trajets en avion, c'est parce qu'il y a vraiment des conséquences graves qui se font sur le réchauffement climatique parce qu'on prend l'avion. Par contre, on peut aussi dire « taxons les trajets en avion, que ceux qui veulent le prendre continuent de le prendre, mais par contre, mettons le bénéfice de cette taxe sur la transition, notamment du rail, pour rendre le rail moins cher que l'avion. » Et ça, c'est une vraie politique climatique, par exemple, qui peut être mieux perçue, notamment dans la population.
Ces mesures climatiques sont généralement impopulaires.
Oui.
Dès lors, est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est foutu d'avance ?
Ben, je n'ai pas envie de croire ça, parce que ce n'est pas vrai. Et on l'a montré encore tout à l'heure, hein, une simple décision politique, en fait, peut régler pas mal de soucis. Alors, je pense que c'est aussi lié au fait que les mandats politiques soient limités dans le temps. Et donc, le politicien, ou la politicienne d'ailleurs, va avoir 4 ans pour pouvoir se faire réélire. Et il n'y a pas de cette limite. Au-delà de 4 ans, bah, il pourra de nouveau se représenter, oui, continuer, etc. Je pense qu'il faudrait limiter ces mandats dans le temps et permettre justement aux politiciens en place de travailler pour le long terme.
C'est ça.
Ici, ils travaillent uniquement sur le court terme, le terme de leur mandat, et puis après, on verra. Mais le changement climatique, le réchauffement en tant que tel, il doit absolument se travailler sur le long terme. Il y a une telle inertie climatique dans l'atmosphère que c'est pas en 4 ans que les problèmes vont être réglés. Il faut vraiment adapter notre société et fournir un nouvel élan à la société. Mais tout ça va prendre du temps et prendre plus de temps, en tout cas, qu'un simple mandat politique.
Tu mets le doigt sur un souci, d'ailleurs, de notre démocratie. Certainement, nos hommes et femmes politiques souhaitent se faire réélire parce que c'est leur métier. Et qui vont, ils n'ont pas envie de perdre leur métier. J'ai l'impression que ça se passe comme ça.
Ouais, je pense qu'ils le pensent comme ça, mais je pense qu'un politicien qui pense que son mandat est un métier, c'est déjà une erreur de base.
Mais tu n'as pas l'impression qu'ils le pensent comme ça ?
Mais j'espère, en tout cas, qu'il y en a qui ne le pensent pas comme ça. Parce que justement, c'est parce qu'ils pensent que c'est leur métier que ça crée des problèmes et qu'ils veulent être réélus absolument. Moi, je vois plutôt le politicien. La noblesse de la politique, c'est justement de travailler à modifier notre société pour toutes les générations futures.
Mais pourquoi il n'y a pas assez de mesures impopulaires, alors ?
Je ne sais pas. Parce que peut-être qu'il
pense, qu'il en a pas assez.
Il n'y en a pas assez.
Des comme ça.
Il n'y en a pas assez des comme ça, oui. Mais je pense qu'il y a des privations qui doivent être imposées à un moment donné si on veut continuer à survivre dans notre territoire.
Oui.
Et je pense qu'on n'y échappera pas à un moment donné. Et si on ne nous l'impose pas nous-mêmes, c'est la nature ou la force des choses qui va finir par nous l'imposer. On va arrêter de prendre l'avion. Alors, je vais te dire pourquoi on va arrêter de prendre l'avion dans 20 ans. Parce qu'il fera trop chaud sur le bassin méditerranéen pour aller en vacances. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre vélo pour aller en Ardennes pour aller chercher de la fraîcheur. Ça, on va nous l'imposer, mais ce n'est pas l'État qui va nous l'imposer, c'est la nature elle-même, finalement.
C'est ça. Et donc, on sera contraint et forcé, finalement, par ces changements climatiques.
Alors, est-ce qu'on veut être contraint et forcé par la nature ou est-ce qu'on veut rester libre par rapport à tout ça? Mais avec peut-être effectivement quelques règles en plus, quoi.
Intéressant. Donc, soit on se contraint alors qu'on le pourrait, si on le voulait réellement,
ouais.
Soit la nature nous contraint à le faire et ce sera plus jamais possible.
Et on ne pourra pas revenir en arrière.
Mmh.
Mais alors, moi, je parle des vacances, donc c'est un truc un peu comique. Alors, on va s'en passer. Bon, bref, on va se passer de vacances, on ira ailleurs en vacances. Mais il faut penser à tous les autres systèmes qui sont derrière, le système agricole. On ne pourra plus cultiver sur le bassin méditerranéen. Donc, tes tomates en hiver, tu te brosses, tu n'en auras plus du tout. Ici, tu peux encore faire le choix d'en acheter ou pas. À l'avenir, tu ne pourras plus parce que les tomates en hiver, c'est pas la saison, il y en a pas. Et sur le bassin méditerranéen, on n'en produit plus parce qu'il fait trop chaud.
Ces limitations qui devraient arriver là maintenant, elles nous seront imposées de toute façon dans les années à venir.
D'office. Et peut-être plus vite qu'on ne le pense.
Oui. Ça, c'est fou quand même. La nature va nous forcer finalement à nous adapter assez vite.
C'est clair et net.
Et on le remarque dans certaines villes en Inde déjà, où il fait trop humide. Que pour y vivre à certains moments de la journée, à certains moments de l'année, et ça devient invivable.
Ouais.
Donc ça, on va partir très loin, et je pense pas qu'on va partir là-dessus.
Mais, revenons en Europe là-dessus. J'ai découvert récemment, je suis parti en vacances en Bretagne, et j'ai découvert récemment que de plus en plus de milliardaires ou millionnaires, je sais pas, français, quittent la Côte d'Azur pour aller acheter des grosses maisons en Bretagne. Parce que dans un avenir relativement proche, il fera trop chaud sur la Côte d'Azur, et la nouvelle Côte d'Azur à la mode, ça va devenir la Bretagne.
C'est fou.
Et ça, c'est déjà en train de se produire maintenant. Mm-hmm. Quand on regarde le pourtour du golfe du Morbihan, ce ne sont que des grosses maisons rachetées par des millionnaires ou des milliardaires.
Qui prévoient donc.
Qui prévoient déjà ce genre de problème et... très proche, parce qu'ils l'achètent maintenant.
Et en Belgique, donc, de nombreuses vignes aussi qu'on commence à cultiver, parce qu'on nous dit donc, qu'on a le climat de la Champagne d'il y a 20-30 ans.
On commence à l'avoir. Alors là, tu touches un point qui m'est sensible, parce que c'est justement là-dessus que je mène mes recherches principalement, c'est de voir comment le climat va évoluer en Belgique vis-à-vis de la viticulture. Et effectivement, on se rapproche progressivement de la Champagne, on n'y est pas encore spécialement, mais surtout, avec les projections futures, d'ici 2050, on produira un vin dans un climat type de la Bourgogne de la période 2000-2020, et en 2100, et ça je l'ai découvert il y a quelques mois, en 2100, la Belgique viticole, ce sera comme le Languedoc actuel. Donc t'imagines qu'on a traversé en fait toute la France en 100 ans, je vais dire.
Oui.
Je vais arrondir, mais en 100 ans, le climat a traversé toute la France pour arriver ici en Belgique, au niveau viticole en tout cas.
Et dans 300 ans, le Sahara.
Eh ben, dans 300 ans, oui, parce que le Sahara est déjà en train de traverser la Méditerranée.
Mm-hmm.
Alors, tu le dis en rigolant, mais finalement, l'Espagne est en train de se désertifier.
Mm-hmm.
Quand on voit les feux de forêt, quand on voit les sécheresses à répétition là-bas, en réalité, ce n'est rien d'autre que le Sahara qui traverse la Méditerranée et qui arrive en Espagne,
mm-hmm.
qui arrive aussi en partie en Grèce.
Ouais.
Et progressivement, tout ça va remonter aussi vers le nord. Hein.
Voilà. c'est assez dramatique d'en parler comme ça, mais je pense que c'est nécessaire et c'est intéressant d'avoir ton avis. C'est pour ça qu'on voulait un climatologue.
Mais c'est dramatique, mais en même temps, toutes les solutions sont là. C'est même pas comme si on n'avait pas d'échappatoire. À la limite, si on n'avait pas d'échappatoire, bah allez, c'est bon, brûlons du pétrole à gogo et profitons-en jusqu'au bout. Mais c'est pas vrai. On a plein de solutions pour s'échapper de cette situation-là. C'est juste, entre gros guillemets, qu'on ne les met pas en œuvre. Mmh. C'est là qu'est le problème.
Et on va être forcé de les mettre en œuvre à un moment. Et si ce n'est pas le politique, alors, comme tu le dis, et qu'ils le font, ce sera la nature. On clôture ça. Après tout ça, on va parler de ce mouvement No Kids. Est-ce que ces personnes qui ne souhaitent pas faire d'enfants, parce qu'on est déjà trop, 7,7 milliards au sein de cette Terre, est-ce que c'est une solution ?
Ça me semble être une solution quand même hyper radicale. Alors qu'il y a plein d'autres solutions aussi à mettre en œuvre en parallèle, quelque part. Je pense aussi qu'on pourrait, et il y a différents auteurs qui l'ont écrit, on pourrait vivre à 10 milliards sur Terre. Mais pas 10 milliards de Belges. 10 milliards de personnes qui respectent la planète. Parce qu'évidemment, un Belge moyen, je ne sais plus combien c'est, consomme 5 ou 6 planètes. Enfin, s'il n'y avait que des Belges sur l'ensemble de la Terre, on n'aurait pas assez de la surface de la Terre pour pouvoir fournir tout ce qu'il faut à un Belge moyen, quoi. Donc,
on est très opulent, hein, par rapport à nos voisins aussi.
Oui, c'est clair.
On consomme beaucoup, quoi.
Bah, par rapport à nos voisins, on reste quand même dans un système qui est... c'est vrai que si on compare intra-européen, on va voir des différences. Mais si on compare par rapport à l'ensemble du globe et le réchauffement climatique est quelque chose de global, les Américains, les Européens, les Chinois, on est quand même plus ou moins, les Australiens aussi peut-être, on est quand même plus ou moins les mêmes catégories de consommateurs. Il faut plutôt regarder les autres pays pour voir que eux consomment beaucoup moins, par exemple. Et peut-être s'inspirer de ces autres pays-là. Mmh. Est-ce que je disais qu'on pourrait être à 2 milliards? Mais effectivement, si on rentre dans une espèce de sobriété, de respect de la nature, de respect des aliments, de ne pas faire des inepties de capitalisme où on exporte autant qu'on apporte un même produit, par exemple, et qu'on limite vraiment au maximum nos consommations, juste avec ce qu'on doit avoir pour être à la limite... pour vivre et pour être heureux, parce que l'un ne va pas forcément sans l'autre. Hein. Si on se limite complètement, il y a moyen de vivre avec 10 milliards d'humains sur Terre. Mmh. Mais sûrement pas comme un Belge moyen le fait à l'heure actuelle.
Alors, on parle de ces éco-anxieux. En parallèle, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui n'y croient toujours pas et qui se voient finalement la face sur tout ça ?
Sur
le réchauffement climatique.
Ah. Je peux sortir un truc de mon téléphone ?
Bien sûr.
Ce que j'ai vu sur France Inter, une phrase de Denis Meadows, donc c'était un des rédacteurs du rapport Meadows, hein, qu'il avait rédigé dans les années 70 et qui montrait que la Terre a ses limites et qu'on est en train de clairement les dépasser. Il a écrit ceci. Le problème des climato-sceptiques, ce n'est pas qu'ils ne croient pas au changement climatique, c'est qu'ils s'en fichent. Ils s'en fichent parce que le système actuel leur donne du pouvoir politique ou économique, donc pourquoi croire au réchauffement climatique ? Et donc c'est purement ça, ici.
Ce sont des personnes qui sont bien.
C'est des personnes qui sont valorisées dans le système actuel, et donc ils ne veulent pas croire à ce réchauffement climatique. Est-ce que nous, on doit écouter ces personnes-là ? Moi, je pense que non. Il faut pas les écouter. Et il faut justement rentrer dans un système où impulser un nouveau système, une nouvelle manière de fonctionner pour changer les choses. Je le répète encore une fois, toutes les solutions sont là. Et donc, il suffit de les mettre en œuvre.
Pourtant, ces personnes sont très bruyantes. Ah. C'est généralement elles qu'on entend le plus dans les commentaires sur les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qui explique ça ? Est-ce qu'il y a malgré tout plus de gens qui sont sensibles à cette cause climatique ?
Ah oui, mais ça c'est clair et net, parce qu'on a fait toute une série d'études, et par contre ce chiffre est en train d'augmenter au fur et à mesure qu'on fait ces études-là, mais de personnes qui sont conscientisées et qui agissent pour le réchauffement climatique, c'est de l'ordre de 20%. Et donc il reste quand même 80% de la population qui sont moyennement conscientisées, voire qui sont clairement climato-sceptiques et qui ne veulent pas changer.
Est-ce qu'il y a un entre-deux, justement ?
Mais je pense qu'avant ça, je pense que la responsabilité de ces 20%, c'est peut-être aussi de ne pas trop écouter ces climato-sceptiques qui vont faire beaucoup plus de bruit que les autres. Et de plutôt se retrouver entre les personnes qui font partie de ces 20% pour justement impulser des choses. Et je pense aussi que c'est par l'exemple qu'on parviendra à insuffler un nouveau système, par exemple. Si je te montre que je vis mieux, je vis plus heureux en allant, par exemple, au boulot à vélo, ou en mangeant un produit de la ferme à côté de chez moi, ou en faisant... En allant chercher, ça me rend très heureux pour le moment, en allant chercher de la farine bio dans un moulin tout près de chez moi, et je fais mon pain moi-même. Ben voilà, ça me rend heureux, et ça produit pratiquement pas de gaz à effet de serre. Et donc, si je te dis que moi, je peux vivre dans en faisant des efforts, entre guillemets, mais qui sont positifs pour ma vie, en fait, je change complètement le récit. Ce n'est plus une punition d'agir pour le réchauffement climatique, c'est quelque chose de bénéfique pour moi et en même temps qu'au bénéfice pour la Terre. Mais regardons moi d'abord, parce qu'effectivement, comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est principalement l'ego qui contrôle nos décisions. Ben regarde-moi d'abord. Un, je fais des économies. Deux, ça me rend heureux.
Qu'est-ce que tu conseillerais, là, à notre échelle, donc de positiver finalement des actions climatiques en société, etc. Ça, c'est une première chose. Une deuxième,
discuter avec ses amis, de simplement savoir ce qu'eux font, ça peut donner des idées, notamment pour changer simplement. Et on parlait de l'éco-anxiété, simplement agir à sa propre échelle pour justement vivre mieux tout en prenant soin de la planète, ça efface justement cette éco-anxiété aussi.
On va clôturer peut-être avec une phrase. Il y a quand même une phrase de Jean Covici qui est fort présent aussi sur les médias, qui dit si vous vous occupez pas du climat, c'est de toute façon lui qui s'occupera de vous. Il dit ça donc.
Je ne savais pas qu'il disait ça parce que finalement j'ai dit ça aussi.
Voilà. Et c'est peut-être une belle conclusion ça.
Elle est un peu pessimiste quand même.
Oui. Est-ce que tu es encore optimiste?
Moi, j'ai toujours été optimiste, mais je crois que c'est ancré aussi en moi. Et être pessimiste, c'est aussi donner du grain à moudre aux climato-sceptiques, quelque part. Donc si moi, climatologue, je ne suis pas optimiste, je faillis un peu aussi à mon devoir. Mais c'est vrai que, humainement, je suis plutôt optimiste dans ma personnalité.
D'accord. Ça ne te pèse pas, le climat ambiant, avec l'élection de Trump, avec une COP29 qui ne donne actuellement rien, en tout cas, avec différentes choses.
En fait, je suis optimiste parce que toutes les solutions sont là.
C'est ça.
Et donc, tout ce qui se passe autour de nous, cette inactivité ou cette élection de Trump, c'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme. C'est quelque chose qui commence tout doucement à m'énerver. Je trouve ça... incroyable, quoi, qu'on ne parvienne pas à faire un changement. Et toutes ces personnalités qui ne font que rajouter de l'huile sur le feu, finalement, ça m'énerve plus qu'une question de pessimisme ou d'optimisme.
C'est ça. Ce rapport du GIEC avec les solutions, il est lisible et accessible à tout le monde? Tu considères que tout le monde pourrait le lire?
Alors, effectivement, ça c'est une très bonne question parce qu'il est très compliqué à lire. Mais maintenant, le GIEC a aussi prévu toute une série de simplifications du message. Et donc, tout ça est disponible gratuitement. On a aussi, par contre, dans le gros rapport, toutes les sources qui mènent à arriver à de telles conclusions. Donc, c'est très intéressant, notamment quand on fait face à des climato-sceptiques. C'est-à-dire qu'ici, on a des sources scientifiques validées qu'on a à opposer. Eux, ils n'ont rien à opposer par rapport à simplement leurs propos. Et donc, le GIEC a ce gros rapport bien ficelé. Il parvient à le vulgariser avec toute une série d'outils. Mais alors, il y a plein d'autres acteurs ailleurs dans le monde. Et par exemple, l'Université de Liège, à travers son Green Office, est en train de le faire aussi. C'est-à-dire qu'on reprend le rapport du GIEC et on le traduit simplement en des stories Instagram. Et donc là, on a la simplification extrême, mais au moins l'information, elle passe. Alors, je cite l'université parce que c'est un peu ma maison, mais il y a plein d'autres instituts dans le monde qui simplifient les messages du GIEC qui sont effectivement assez compliqués. Oui.
Tu conseilles de les lire?
Les rapports?
Oui.
En tout cas, quand on a une question, c'est toujours bien de l'ouvrir. Maintenant, moi, je t'avoue, je ne l'ai jamais lu de bout en bout. Mais par contre, quand j'ai une question pourquoi est-ce que, par exemple, les inondations augmentent avec le réchauffement climatique. Hop, on va voir le rapport du GIEC et c'est vraiment super bien fait. Alors, il faut avoir un peu l'habitude de lire ce genre de rapport. Mais même si on n'a pas l'habitude, il y a ce que je disais, des outils comme par exemple l'Atlas interactif du GIEC, où là, par région dans le monde, on peut aller voir les différents changements qui peuvent intervenir à tel ou tel niveau. Et d'ailleurs, dans un de mes cours, mon cours de premier bac, je fais un exercice avec les étudiants où ils doivent justement, pour un pays, on attribue un pays dans le monde ou une région dans le monde, et ils doivent aller me dire, à travers les différents outils de vulgarisation du GIEC, et aussi, ils doivent aller un petit peu chercher des informations dans les rapports, ils doivent me dire quels sont les changements climatiques à l'heure actuelle, quels vont être les changements climatiques dans le futur, et à travers les rapports du GIEC, ils doivent me donner les conséquences sur l'ensemble de la société ou de l'environnement de cette région-là en particulier. Et donc j'essaye d'insuffler ça aussi et de donner le réflexe à mes étudiants d'aller voir ces rapports et ces différents outils. Quoi.
C'est vraiment une base de données qui t'est utile quotidiennement, quoi. Enfin,
C'est ça, oui. Mais c'est une espèce de grosse compilation de toute la science, et donc toute la science climatique en tout cas. Et donc chaque fois qu'on a une question, forcément, on l'ouvre et on peut même retourner. Ils sont tellement bien faits qu'on peut retourner à la source originelle d'une telle affirmation, par exemple. Donc c'est super intéressant, même pour nous, quand on écrit un article, de retourner à la source originelle.
On en parle beaucoup de ce rapport du GIEC. Combien de personnes le font ?
Il a été écrit par 4000 auteurs, je pense, et il a été relu par 15-20 000 personnes. Donc, c'est pas un truc qu'on a écrit sur le coin d'une table. Hein. Mm-hmm. Il y a des tours de lecture, de relecture, des re-relectures de certains passages. C'est parfois des paragraphes où il y a, sur un paragraphe, il peut y avoir 1000 commentaires.
Oui.
Et les auteurs doivent répondre aux 1000 commentaires. Donc, c'est vraiment un travail hyper fouillé.
Hyper fouillé, très objectif.
Le plus objectif possible, en tout cas.
Le mot de la fin, Sébastien. Toujours compliqué de conclure une interview d'une heure. Mais malgré tout, le mot de la fin, qu'est-ce que ça pourrait être ? Est-ce que c'est un appel aux politiques ? Est-ce que c'est plus un appel aux gens ? Est-ce que c'est un appel à tout le monde ?
Mais je pense que de toute façon, c'est à tout le monde. C'est à tout le monde. Et peut-être de dire simplement que agir pour le climat, c'est agir aussi pour un environnement plus sain, pour son portefeuille, par exemple, pour soi-même, pour ses enfants. Donc c'est vraiment, il y a plein de co-bénéfices à agir pour le climat. C'est juste qu'on ne les met pas assez en lumière, et donc le mot de la fin, c'est peut-être justement de pouvoir mettre en lumière justement toutes ces solutions pour vivre dans un environnement plus sain, quoi.
Merci Sébastien.
Avec plaisir.
Merci mille fois et merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à nous retrouver également sur Apple Podcast, sur Spotify en podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette émission. Si vous avez d'autres questions à poser à Sébastien, n'hésitez pas, je lui poserai et je vous répondrai en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine, tous les dimanches, avec un nouvel invité. Ciao.